avec ton sandwich au croton.
Oh boy! Ah. Tu es en train de manger ton sandwich au croton, Pascal?
Non,
c'est
non, je suis en train de digérer tes propos de...
Tantôt, t'avais du produit à
un
boire.
Shake.
C'était quoi, hein?
C'est un shake. C'est de la petite... Ah, c'est bon, là, ça, Yannick, là.
C'est quoi, ça goûte?
C'est mon péché mignon. C'est une protéine que je mélange. Un scoop qui goûte le café, un scoop qui goûte le chocolat.
OK.
Je mets aussi du collagène dedans. Puis là, tu mets de la glace, là. Je te dis, ça goûte le café glacé, puis c'est comme un dîner. Liquide. Hey,
c'est quoi, on est-tu rendu deux filles le matin? Nous autres,
C'est toi qui as posé des questions. Ah, c'est deux filles le midi.
Deux filles le midi.
Deux belles femmes le midi qui vous partagent leur petite... je sais pas comment on appelle ça, recette.
Puis là, ça t'aide-tu dans ton entraînement? Là?
Oui, oui, oui. Mais là, j'ai pogné deux semaines de dur labeur. Là.
Comment ça?
Ah là, je n'ai perdu. Là, je me suis passé à entraîner les dernières semaines. Ça me stresse pas, moi, ça pas.
Tu choke, hein?
Non.
Juste à dire qu'en fin de semaine...
Tu choke. Voyez-vous avec qui je fais affaire. Moi, je suis supposée avoir quelqu'un avec qui je travaille, qui me motive, qui est là, qui... Mais non, tu choke, hein? Je savais que t'allais te choquer.
Je pensais que tu parlais de Denis Gravel, là. Ah. Mais est-ce que... Moi, en fin de semaine, là, je suis tombé sur... des fois, moi, je tombe sur les réseaux sociaux, là, mettons sur YouTube.
Là, tu t'y perds.
Puis là, je me perds. Ouais. Puis là, je regarde des affaires. Puis là, peut-être parce que j'ai pensé à toi, là, j'ai commencé à regarder des images de gens qui avaient gravi l'Everest.
Oui.
Avec... puis c'était la version des Sherpas. Ce qui fait en sorte que les Sherpas montraient comment ils descendaient les corps.
C'est eux les vrais. Oh.
Quand ils trouvaient les corps sur l'Everest, il y en a qui doivent laisser là, mais il y en a d'autres qui peuvent descendre. Puis ils montraient les techniques pour les faire descendre. Puis j'ai pensé à toi.
Hey, c'est smart.
Continue de t'entraîner parce
c'est
que là, tu t'en vas faire
smart.
Le Kilimanjaro. D'ailleurs, on va en parler. Si c'est pas cette semaine, ce sera certainement la semaine prochaine. Mais tu t'en vas faire le Kilimanjaro. Faut que tu t'entraînes parce que là, moi, je veux pas que le Sherpa soit pogné à te descendre.
Ah, non, t'aurais bien trop de fun à avoir une caméra GoPro puis voir le grand corps de ta collègue être descendu parce qu'elle n'a pas réussi à faire son défi physique. T'aurais pas de fun, pas en tout.
Ah non,
hein?
C'est capoté. Puis les corps, ben, sont gelés. Fait que là, les Sherpas, eux autres, ils embarquent les corps sur leurs épaules. Puis mettons que le gars, il est comme les deux bras dans les airs. Ben, le Sherpa l'embarque sur ses épaules avec les deux bras déserts.
Tu me fais rire, mais c'est vraiment pas drôle, c'est super tragique, là.
Fait que continue de t'entraîner.
Oui, et je ne gèlerai pas au Kilimanjaro le jour où je vais lâcher. Mais ça, c'est dans ton scénario, je ne lâcherai pas.
Bon,
tu me connais, j'ai beaucoup de résilience et de
force mentale. Faut jamais lâcher. C'est pas de tomber. C'est pas de tomber qui est important, c'est de savoir comment tu vas te le relever.
Exact, encaisser les coups.
Encaisser les coups! C'est Rocky qui disait ça. Hey, Nicolas Gagnon, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ouais, ça allait bien, jusqu'à temps que je lise la chronique de Michel Girard dans le Journal de Québec, qui permet aux Québécois de constater à quel point nous, les automobilistes québécois, on paye une méchante beurrée en taxes puis en droits de tout acabit pour rouler chez nous. Il a repéré des taxes, Nick, et des droits reliés aux véhicules pour la modique somme de 14 milliards de dollars par année.
Carrément, dont 11 milliards qui vont directement au Québec. C'est quand même pas rien. Puis c'est ça, l'expression que j'utilise souvent, là, comme quoi est-ce que l'automobiliste québécois, c'est un genre de citron qu'on peut presser à répétition. Ben ça, c'est une très belle démonstration. T'sais, au final, depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler de la taxe carbone avec raison, parce que depuis le 1er avril, on est pas mal les seuls à la payer. Mais quand on regarde le reste, on se rend compte que ben c'est pas la seule chose qu'on doit assumer sur nos factures. Là. Il y a toute une trollée de taxes qui nous est refilée directement. Et la taxe carbone n'est qu'une d'entre elles, là, que ce soit la taxe provinciale sur les carburants. Juste celle-là, là, c'est 19,2 cents par litre d'essence. Ben, ça rapporte au gouvernement pas loin de 2 milliards de dollars par année via chaque litre d'essence qu'on paye pour faire avancer nos véhicules. On a aussi là, la taxe de vente sur l'essence, ben, parce que faut le rappeler, non seulement on paye des taxes qui sont intégrées dans le prix de l'essence, mais on a aussi une taxe qui s'applique sur les taxes. Donc, on a un effet de double taxation parce qu'au Québec, on manquait tellement d'idées pour savoir quoi taxer. Fait qu'on s'est dit un jour, ben, pourquoi pas taxer des taxes? Puis c'est exactement qui est produit et ça ramène de l'argent au gouvernement. Ça, c'est sans oublier aussi toutes les autres formes de droits d'immatriculation ou les permis de conduire. Bref, c'est fou à quel point le gouvernement ne manque pas de manière de siphonner le contribuable de cette manière-là.
Écoute, juste pour les auditeurs, Nick, on va toutes les nommer, OK? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 taxes que c'est les automobilistes directs qui payent ça. Tu l'as dit, taxe provinciale, donc c'est 19,2 cents du litre sur les carburants. Ça rapporte au Québec 2 135 millions. Taxe de vente TVQ sur l'essence, c'est 1 575 millions. taxe carbone, ça, on l'appelle la SPEED. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, là.
Ben, c'est l'acronyme qui tient pour système de plafonnement et échange des droits des émissions, mais officiellement, parce que dans le fond, on a le marché de carbone, puis on a le fameux système de plafonnement qui limite les émissions des entreprises. Dès qu'ils dépassent ce cap-là, elles doivent acheter des actions sur le marché du carbone, et c'est comme ça qu'au final, on refile le coût aux consommateurs. Donc, c'est ça, c'est juste ça, c'est 1,5 milliard, là, ça a l'air de rien, et ça s'ajoute aux 10,4 milliards que le gouvernement est déjà allé chercher dans nos poches depuis que le système est en place, et que ça se retrouve être dilapidé à travers le fonds vert là, en subvention aux entreprises. Sinon, pour continuer un peu l'énumération, les droits d'immatriculation, les permis de conduire, juste ça, le gouvernement va chercher 1,8 milliard de dollars, donc ouais. C'est quand même pas rien.
Mais c'est pourquoi
moi, rentabilité ta clique, là.
C'est-tu pourquoi je le dis en millions, Nick? Parce que les gens perdent la mesure. Si tu croises des gens autour de toi là, qui sont pas des, mettons, des gens qui écoutent les nouvelles, qui écoutent pas la radio et tout ça, demande-leur, il y a combien de millions dans un milliard? Puis tu vas avoir peur des réponses. Dans la majorité des cas, les gens vont se tromper. C'est 1888 millions de dollars, les droits d'immatriculation et permis de conduire. Donc, 1,9 milliard de dollars.
Mais même ça, c'est même pas clair dans la tête des gens. Tu sais, quand ça devient trop gros, on dirait qu'on s'en fait plus, qu'on perd autant d'argent.
Mais 1 million, on le sait. 1888 millions, c'est... 1888 fois le 1 million. Fait que, nécessairement, on a une belle idée, mais c'est quand on arrive avec le milliard, les gens ont l'impression, les gens perdent la mesure. Taxe de vente, c'est 9% sur les contributions d'assurance de la SAAQ. Là, c'est 65 millions. Taxe de vente de 9% sur les primes d'assurance auto, c'est 574 millions. Taxe de 3,3% sur les primes d'assurance auto, c'est 210 millions. TVQ perçu sur les ventes de véhicules par un commerçant neuf ou usagé, 1922 millions de dollars, donc 1,9 milliard de dollars. TVQ perçu sur la vente de véhicules usagés entre particuliers, 210 millions. TVQ sur l'entretien des véhicules, 577 millions. Taxe sur l'immatriculation, ça c'est le 30$ là, pour Québec, c'est 89 millions. Taxe sur l'immatriculation, c'est 150$. Pour ARTM, ça c'est quoi, Nick?
L'Agence régionale de transport de Montréal, à moins que je me trompe avec l'acronyme, là, mais c'est pas mal tout ce qui régit l'ensemble des sociétés de transport en commun dans la grande région métropolitaine de Montréal. Ça ratisse pas mal large parce que cette fameuse taxe-là, c'est écrit 150$ parce que c'était 59$ l'année dernière. Donc, il y a eu une belle augmentation de ce montant-là. Puis ça couvre le territoire de Saint-Jérôme jusqu'à Saint-Basile-le-Grand. Donc, c'est pas mal large comme communauté métropolitaine. L'ARTM, c'est aussi une des plus déficitaire quand on regarde le transport en commun à travers tout le Québec. Là.
320 millions pour la taxe sur l'immatriculation pour le ARTM et taxe supplémentaire de 60$ pour d'autres territoires en 2025. Ça, c'est 25 millions. Donc, les automobilistes, là, à eux seuls, rapportent 14 milliards de dollars pour le gouvernement de François Legault. On a-tu un retour sur notre investissement, Nick?
Non. C'est une bonne question. Ben, en fait, c'est plus 11 milliards pour le gouvernement de François Legault, puis là-dedans, il y a aussi un 3 milliards qui s'en va au gouvernement fédéral, parce qu'on paye aussi une taxe d'assises fédérale sur chaque litre d'essence qui est d'environ 10 cents. Il y a aussi la taxe de vente ou la TPS qui s'applique encore une fois sur les autres taxes qui nous sont refilées. Donc, juste ça rapporte quand même des montants assez importants au gouvernement. Puis oui, quand on regarde la facture, 11 milliards qui est envoyé au gouvernement, puis après ça, on se dit, ben c'est supposé servir pour l'entretien de nos routes, puis et finalement aussi une partie pour le transport en commun, là, notamment les augmentations de taxes sur les matriculations, ça sert à justement combler les déficits pour le transport en commun. Il y a bien du monde qui ont sursauté quand ils ont reçu leur renouvellement pour l'immatriculation de leur véhicule cette année parce que la facture a quand même explosé. Dans mon cas, je pense qu'on en a parlé la semaine dernière. J'ai de recevoir mon document pour le renouvellement. L'année passée, là, j'étais un peu plus en bas de 200$ cette année. Je suis pas loin de 400$ cette année pour l'immatriculation de mon véhicule. Puis moi, j'ai quand même l'avantage d'être seul. J'ai pas d'enfant. Donc, clairement, c'est une facture pour une personne. Mais si j'étais une famille, ben vous recevez cette facture-là deux fois, c'est quand même pas loin de 300$ de plus que vous devez payer cette année juste pour pouvoir vous promener avec votre véhicule. Ça fait quand même une différence dans le budget de plusieurs. Et au final, ben, on regarde nos routes, on regarde le transport en commun, l'accessibilité, la qualité du service. Puis non, pour répondre à la question, 11 milliards, ça en vaut pas le coup. Puis ce qui est le plus dérangeant, c'est c'est que les Québécois, on est parmi les plus taxés à la pompe en Amérique du Nord. Quand on se compare avec les autres provinces, mm-hmm. on paye beaucoup plus de taxes. Il y a juste la Colombie-Britannique qui a plus de taxes que nous par litre d'essence, puis eux, c'est parce que les taxes sur le transport en commun sont plus élevées sur chaque litre d'essence. Mais après ça, allez vous promener en Ontario, allez vous promener en Alberta, allez voir l'état des routes à Calgary ou à Toronto, puis comparez ça avec Montréal puis Québec. Quoique Québec, c'est quand même pas stipé, mais allez voir à Montréal, puis dites-vous, Montréal paye encore plus de taxes que dans la région de Québec, parce qu'ils ont une taxe sur le transport en commun d'environ 3 cents par litre d'essence. Et le résultat, ben, c'est des cônes oranges un peu partout, des routes délabrées, des nids de poules qui s'accumulent à chaque année. Donc, comment ça se fait qu'on est les plus taxés, puis qu'on a les routes les plus laides, quasiment, là, ne serait-ce qu'au Canada? Ça fait aucun sens. Puis à la fin, bon, on regarde ce que ça donne au niveau fiscal pour le gouvernement. Des déficits à répétition malgré des gros revenus. Puis en plus, ben, quand on ose demander un allègement comme dans les autres provinces pour réduire les taxes sur l'essence puis rendre la vie plus abordable pour les familles et les travailleurs, bon, on se fait dire que c'est une mesure populiste.
Ouais. J'avais des discussions en fin de semaine, puis je m'excuse, là, je trouve ça bizarre qu'on parle de politique, mais j'ai l'impression que tu es dans ma gang. Mais en fin de semaine, on se dit OK, parfait, pour l'accumulation de taxes, l'ajout de taxes. Ce que tu dis, une taxe sur une taxe, on est vraiment taxé. Puis on se rend compte que c'est souvent la solution politique dans les dernières années d'ajouter quelque chose en disant on en a vraiment besoin. Le hic est, c'est vrai qu'on a besoin de ces taxes-là pour le filet social, pour le filet économique. Où est-ce que ça s'arrête? Parce que tu déplores assurément les taxes, tu es là pour nous dire où est-ce qu'on dépense trop, à quoi elles servent. Ces taxes-là, je suis tannée de le répéter, mais à quoi elles servent au quotidien? Cependant, on n'est pas dans un courant où ça va s'arrêter. Puis on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter.
Non, ben pas du tout. En fait, puis le problème, ben en fait, le plus gros problème qu'on peut avoir présentement, quand on regarde l'état des choses, c'est de se dire, bon, les automobilistes sont pressés comme jamais. Il y a une pression fiscale qui n'arrête pas d'augmenter. Et non seulement on a beaucoup de taxes sur chaque litre d'essence qu'on peut énumérer à répétition, puis et comme à chaque année, nous, à la Fédération, on va publier en plus notre rapport au mois d'août, justement, pour faire la lumière sur toutes les taxes et les mécanismes qui augmentent le prix de l'essence. Donc, ça me permet de comparer un peu le Québec avec les autres provinces. Je l'avertis d'avance, cette année, ça risque de pas être très beau pour nous autres. Mais en plus de ça, on a vu des augmentations de taxes sur les matriculations qui sont entrées en vigueur en janvier dans la région de Québec, dans la région de Montréal. Donc, on ajoute par-dessus le marché d'autres taxes à travers d'autres mécanismes. Et on n'a personne à l'Assemblée nationale présentement qui s'insurge par rapport à ça. Parce qu'à la fin de la journée, les contribuables méritent un allègement, surtout, ne serait-ce que pour passer à travers les temps difficiles au niveau d'une économie qui est quand même au ralenti. On a c'est bien beau dire que l'inflation a ralenti au cours des dernières années, mais en fait, au cours des derniers mois, mais il n'en reste qu'au cours des dernières années, le coût de la vie a quand même drastiquement augmenté, puis les gens en arrachent. Et là, on regarde toutes ces taxes-là sur chaque litre d'essence qui fait aucun sens, puis on se dit, on peut-tu avoir un répit à quelque part? Et il y a malheureusement personne. Il n'y a pas un seul parti à l'Assemblée nationale qui s'insurge par rapport à cette situation-là.
Parce qu'ils savent que s'ils sont élus, ils vont devoir faire la même chose, ils vont vouloir faire la même chose sinon.
Ben oui, l'avantage au moins, c'est qu'il y a peut-être le Parti québécois qui sent un peu qu'il y a le vent dans les voiles et donc qui ont commencé à parler de ça justement par rapport à leur campagne dans Tabasco. Grand bien leur face.
Parce en fait, c'est la fin qui justifie les moyens, Nick, là.
Oui, exact. Il y a un peu de machiavélisme là-dedans. Là, mais au final, dans le cas du PQ, ils ont parlé tellement souvent du prix de l'essence dans le passé, mais ils en parlaient seulement pour pointer du doigt les pétrolières. Là, ils ont comme fini par comprendre que c'est peut-être les taxes et les mécanismes qu'on met sur chaque litre d'essence qui n'aident clairement pas les choses. Mais bon, c'est un peu par opportunisme. Il y a au moins Éric Duhaime avec le Parti conservateur qui en parle. Lui, malheureusement, il n'y a pas de place à l'Assemblée nationale, donc ça empêche ce message-là d'avoir un écho supplémentaire. Mais moi, j'ai très hâte aussi de voir si le Parti libéral du Québec va s'aligner un peu plus sur les autres partis libéraux à travers le pays. Là. Ils vont avoir bientôt un chiffre le 14 juin prochain. Fait que j'ai hâte que ce parti-là se réveille et participe au débat parce qu'on les sent endormis depuis un bout. Et la réalité, c'est que quand on regarde le Parti libéral, ils ont tout intérêt à s'aligner sur ce que Carney a fait. Mark Carney, au fédéral, il a éliminé la taxe carbone en premier lieu. C'est la première chose qu'il a faite quand il est devenu premier ministre. Fait que ça serait le fun de voir si, par exemple, Pablo Rodriguez, si jamais c'est lui le prochain chef du Parti libéral, ou Carl Blackburn, ou sinon Charles Milliard, bref, un de ces trois-là, parce que les deux autres, sont un peu moins connus, un peu moins favoris, mais il en reste qu'on va espérer que peut-être que le Parti libéral va se réveiller, qui faut rappeler, c'est l'opposition officielle après tout, puis ils sont endormis depuis 2022. Donc, peut-être que ça va aider les choses, puis qu'en plus, ils vont pouvoir ramener l'argument que dans d'autres juridictions, au fédéral, comme dans d'autres provinces, on a donné des allègements aux automobilistes, puis on voit à quel point ça peut rendre la vie plus abordable pour les familles.
Avec la Fédération canadienne des contribuables, vous êtes penché sur les promesses de Mark Carney et vous avez jugé ça insuffisant. Pourquoi?
Ben parce que dans son fameux discours du trône, il y en a dit des affaires qui ont fait, mettons, qui ont surpris plusieurs personnes, notamment il a ramené la question de la transformation économique. Ben du moins c'est pas lui qui l'a dit, c'est le roi, mais c'est pas le roi qui l'a écrit. Et là-dedans, il a mentionné le fameux plafonnement des effectifs dans la fonction publique fédérale. Ça c'est une affaire qu'il avait déjà mentionné auparavant. Durant la campagne électorale, à savoir où est-ce qu'il avait remarqué à quel point la bureaucratie avait augmenté drastiquement sous son prédécesseur, sous Justin Trudeau, et il proposait des solutions à ça. Parce qu'il faut rappeler que sous Justin Trudeau, la bureaucratie au fédéral a augmenté de 108 000 fonctionnaires depuis 2015. Du moins, c'était le cas jusqu'à la sortie des plus récents chiffres. Et on a appris, en fait, que malgré tout, et puis ça, c'est notre grande surprise, il y a 9 800 fonctionnaires de moins dans la fonction publique depuis l'année dernière. Donc, il y a eu un petit ménage. Et on s'entend, là, c'est pas un grand ménage, c'était des effectifs temporaires, mais il y a vraiment eu un ménage où est-ce qu'on a réduit, ne serait-ce que d'un peu, le nombre de fonctionnaires. Mais au final, ce que dit Mark Carney dans son discours, c'est de plafonner. Puis moi, le mot plafonner, ça peut avoir plusieurs tendances. D'un côté, ça veut dire on met un cap et donc on dit qu'on reste à 350 000 fonctionnaires et on n'engage pas plus d'effectifs, ou si on engage plus d'effectifs, on en renvoie ailleurs. Donc, cette approche-là, où il y a l'approche qu'on connaît au Québec, en tout cas, quand on parle de plafonnement, notamment avec les tarifs d'hydro, on dit un plafonnement, mais c'est avec un rythme de 3 %. Donc, ça augmente à chaque année, mais un rythme qui est contrôlé. Donc là, on se dit, Mark Carney va falloir qu'il soit un peu plus clair sur la manière de faire, parce qu'au cours des dernières années, la fonction publique fédérale, elle a quand même explosé, ne serait-ce que dans l'ensemble de ses agences. Puis on est allé voir certains chiffres, en fait, pour s'intéresser à l'explosion des effectifs. Puis regardez, depuis 2016, Infrastructure Canada, le nombre d'employés qui y sont, ça a augmenté de 375%. Quand on regarde Élections Canada, qui a eu un nombre incroyable de ratés durant les élections fédérales cette année, là, on se souvient ce qui s'est passé dans Terrebonne, au Nunavut et compagnie, ben malgré tout, ils ont augmenté leurs effectifs de 173%. Donc, ils ont plus du double des effectifs pour faire un travail qui est de moins en moins, intéressant au niveau des résultats. Et une des pires positions, c'est l'Agence du revenu du Canada. Vous savez, cette fameuse agence qui vous répond au téléphone dès que vous les appelez puis que le service est toujours A1.
Oui.
Ben, eux autres, ils ont augmenté leurs effectifs de 13 000 employés. C'est 33 % de travailleurs de plus. Puis on a doublé les budgets. Et malgré tout, ben, on a toujours des mauvais services. Donc, clairement, que l'ajout de fonctionnaires, ça donne pas des meilleurs résultats. Donc, on va espérer que Mark Carney donne un meilleur plan que de dire, on va plafonner. Parce que pour l'instant, on regarde les chiffres de son prédécesseur, puis l'année dernière, on a hâte de voir dans quelle direction il s'en va, mais pour l'instant, on n'a vraiment aucune idée claire.
Ah, Nicolas Gagnon, on est content de t'avoir dans notre vie avec la Fédération canadienne des contribuables. Mais là, tu nous en as trop dit aujourd'hui. Fait que la semaine prochaine, t'as congé, mon chum.
Oui, ben je prends juste une semaine de congé, j'en profite, parce que si je ne m'abuse, c'est la fin de la session parlementaire ce vendredi. Donc ça veut dire que les députés vont quitter l'Assemblée nationale puis retourner dans leur comté. Ils vont continuer à travailler, entre guillemets.
Ouais.
Mais de mon côté, moi j'en profite parce que il va y avoir moins d'activités parlementaires à Québec et à Ottawa par la suite des choses. Mais je revenais dès le 16 juin en bonne et due forme pour essentiellement continuer à faire ce que je fais d'habitude. Mais je prends une semaine essentiellement pour me reposer puis aussi préparer l'été et le retour à l'automne.
C'est sur quelle plage qu'on va te voir en speedo?
Trop d'informations, réponds pas.
Celle de Laval, non?
Oh non!
Plage de Laval! Salut Nick!
Salut, à très bientôt.
Bye-bye, bonnes vacances, mon ami, c'est bien mérité. Pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca.
Et tu l'as reçu la semaine passée dans Marceau le soir, extrêmement apprécié en passant. Ça, c'est sur Boulevard, hein? boulevard.fm, blvd.fm, section Marceau le soir. Vous allez tout avoir les entrevues d'Yannick de 1 heure en style podcast avec Nicolas, très intéressant.
Ce soir, c'est Maître Marc Bellemare qui sera là. Puis j'ai quelque chose pour vous autres aussi, si je ne me trompe pas, voilà. Histoire d'entrepreneur, podcast, après Marceau le soir. Donc, à partir de 19h, c'est Joanie qui est là. Puis, et Joanie parle avec des entrepreneurs. C'est toujours des podcasts qui sont franchement appréciés. Ce soir, c'est l'excellent Marc-Antoine Reed, planificateur financier, qui va être là. Marc-Antoine Reed, c'est un excellent communicateur, mais c'est aussi un bâtisseur. C'est un gars qui amène notre Pascal National au Kilimanjaro. Il n'est pas chargé de la ramener, par exemple.
Non,
il est chargé de l'amener. Donc, ça va être un épisode qui va être assez le fun à écouter. Donc, le podcast Histoire d'entrepreneur, c'est présenté présenté par l'équipe de Marc-Antoine Ré de DIG,
DIG,
Gestion privée de patrimoine, qui s'occupe de la planification financière et fiscale de votre entreprise. Équipe marc-antoine-ride.com. On fait une courte pause et on vient. Marceau, le midi.